Donc, on est au Mdaf Nun Alef, à Moudalef, en haut de la page. Je crois qu'on avait déjà parlé de Rabbeinu Akadosh. Si ça lui arrivait de rire, alors il y avait des malheurs qui arrivaient quelque part sur Terre. On a vu ça tout en bas de Daf Nun. Je vais le refaire rapidement. Tout en bas de Daf Nun, trois lignes. Yoma de Mechayir Be, Rabbi, Atia Puranuta Le Alma. Le jour où Rabbeinu Akadosh riait, il y avait un malheur qui s'abattait sur le monde. Pourquoi ? Parce que certains expliquent qu'il était toujours béni sourim et les souffrances de Rabbi protégeaient la génération. Et donc, si il est dans le rire à un moment ou un autre, c'est qu'il n'est plus dans la souffrance des Yisourim, alors il pourrait arriver, c'est le moment où, opportun pour qu'un malheur arrive. Amalé le bar kapara, l'otavdichan, ne me fais pas rire. Veyaïv nelecha, arbaïn gerive, chité. Je te donnerai 40 doses de chitim. Amalé l'irzemar, de kol griva de baïna shakilna. Sachez, maître, que toute mesure que je voudrais, je prendrai. Ça veut dire, griva, c'est une mesure. Maintenant, il peut y avoir différentes sortes de mesures, différentes contenances. Moi, je prendrai des mesures ambitieuses. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Chakal dikula rabba, chafie koufura, vesa chafie al reche. Il a pris une grande corbeille, l'a recouvert de goudron pour que ce soit solide, il l'a retourné sur sa tête, comme pour se déguiser, se masquer le visage, d'après une explication. Ve'azal ve'amarle, il allait lui dire à Rabbi, son maître, l'ichil limar, que le Rav veuille bien me mesurer, arba'in grive chite de rachin abar, les 40 mesures de blé que je vous ai prêtées. Comme s'il lui avait prêté, qu'il venait réclamer son dû. C'était une façon pour lui encore de, peut-être, de faire rire Rabbi. Pourquoi Bar Kappara essayait de faire rire Rabbi ? Par la surprise du déguisement, par cette phrase qui est un peu quoi ? Tu m'as jamais rien prêté. C'est moi qui t'ai promis. Et donc, on dit que Bar Kappara, il essayait parce qu'il voulait que Rabbeinu Akadosh soit plus dans la joie, peut-être, pour arriver à un niveau de Torah sans que rien ne limite. Parce qu'avec plus de joie, on arrive à plus de Nevoa ou de Chorma, etc. Quelque chose de ce genre. Mais Rabbeinu Akadosh voulait s'en prémunir, comme on l'a vu, il n'a même pas invité son gendre au mariage de Rabbi Shimon bar Rabbi initialement. C'était à cause de ce risque, parce que c'est un moment festif. C'était l'occasion certainement pour Bar Kappara de réjouir Rabbeinu Akadosh et de le faire rire. Alors il lui a dit, Rabbi, lavazartir, ne t'ai-je pas mis en garde, l'otav dechan, de ne pas me faire rire. Amarle, chite de rachina kadmasivna. Il lui répète, froidement, certainement, le blé que je t'ai prêté, je viens réclamer. Ça veut dire que je suis conscient que j'ai perdu. J'ai perdu mon engagement, puisque c'est vrai. En répétant ça, ça veut dire je suis conscient que je te fais rire, et donc voilà. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la fin de l'histoire. Ensuite, c'est toujours Bar Kappara avec Rabbeinu Akadosh, cette fois-ci, à l'occasion du mariage où finalement il a été invité. Amar le Bar Kappara le Barté des Rabbis. Bar Kappara, qui était certainement très proche de la famille de Rabbeinu Akadosh, c'est le grand ami de Rabbi, il dit à la fille de Rabbi, « Le machar shatina chamra berikuda de avour. Demain, je boirai le vin devant les danses de ton père. » Rabbeinu Akadosh, il va danser le mariage de son fils. « Ubekir kane deimar. » Et avec le service de ta mère. C'est elle qui va me servir le vin à l'occasion de cette simcha. Et ben moi, c'est de cette manière que je boirai. Je serai servi et honoré de boire ce vin devant les danses de Rabbeinu Akadosh. On raconte en introduction Ben al-Rasa Khatane de Rabbi Ava. C'était le gendre de Rabbeinu Akadosh, Vashir Gadolaya. C'était un homme très très riche, Azmené le Beiloula de Rabbi Shimon Barabi. Alors lui aussi, il a été invité au mariage du fils, Amar le Bar Kappara le Rabbi. Et là, on est le lendemain, au moment de la fête. Bar Kappara dit à Rabbi, Maito Eva. J'ai l'impression que c'était un moment de grande joie. Et alors, c'était l'occasion de rentrer dans un sujet de drouche, un peu moins rigoureux que ce qui se entretenait au quotidien, à l'étude entre Rabbi et Bar Kappara. Alors, demande, c'est quoi Toeva évoqué dans la Torah, à propos de Mishkav Zachor. Parce que, dit le Maharsha, c'est vrai que dans la Torah, on a trouvé ce terme de Toeva dans différentes Averot, mais en matière de Erva, de relations illicites, il n'y a que pour Mishkav Zachor où la Torah, elle met cette étiquette. Donc, quelle est cette connotation de Toeva? C'est pas Stam Toeva, abominable. Et ça pouvait se dire de n'importe quelle autre Avera, d'accord? Parmi les Arayot, c'est la seule. Alors, il lui dit toutes sortes de réponses. Kol de Amar le Rabbi, de Achin Hu Toeva. Tout ce que Rabbi disait, c'est ça, que la Torah a voulu désigner ici comme Toeva, Parcha Bar Kapara. Bar Kapara, il s'est vertué à contre-carré. À chaque fois, il dit non, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Donc, il lui a mis l'eau à la bouche. Amar le Parche'at. C'est alors que Rabbi dit à son Talmid, alors explique-toi, toi-même, donne-moi le sens de ce mot, dans ce contexte. Que la rabbanite, c'est ça, dvitri, votre femme, à vous, Rabbi, vienne me servir le vin. Natla, c'est le keli, la carafe, qu'elle vienne me mettre le vin. Et dans ce contexte de joie, je pourrais vous donner l'explication. Atat Ramyale, elle est venue, elle a servi. Et Barka, pareil, surenchère, à Marlène et Rabbi, Koum Rekodli. Danse devant moi. Après ça, je pourrais démarlecha, que je pourrais te dire. Et donc, c'est comme ça qu'il va lui expliquer, Achi Amarachamana, voilà ce qu'Hachem voulait dire ici. Toeva, Milachon, Toe, Ba. Coupé en deux, ça fait Toe, Ba. Cet homme, il est Toe dans cette chose-là. Toe, Ataba. Au-delà du sens premier, bien sûr, que En Mikra Yotse Midepshuto, que c'est littéralement abominable. Mishkav Zachor en soi, c'est abominable. C'est le pshat, on n'a pas besoin. Comment?
Mishkav Zachor, c'est quoi?
Mishkav Zachor, c'est ve'et ish asher ishkav et zachar mishkav isha toeva asut shenem mot yumatu demembam son chayavim skila. Deux hommes qui vont ensemble.
Mishkav Zachor.
Donc pourquoi on a dit ici spécifiquement ce mot toeva? On pouvait le voir aussi dans d'autres sujets de Arayot. Et donc, c'est ce que Bar Kapara a commenté. Toé Ataba. Dans cette voie, tu es Toé. C'est une des routes, c'est se perdre. C'est aller nulle part. Les gens croient qu'il y a une orientation, c'est un mot très à la mode aujourd'hui. Il existe une orientation pareille. C'est pas une orientation, c'est une désorientation. Par définition. Parce que dans les gènes des humains, il n'y a pas cette tentation-là. Elle n'existe pas. Le Ramban à la Torah, il dit, dans le pasouk de Neman, Sefot, Arava et Tatsemea, il dit que ça n'existe pas naturellement une tentation pareille, sauf pour quelqu'un qui a tellement abusé de la chair, il s'est permis trop d'excès en matière de relations hommes-femmes, au point que il est blasé de tout ça. Alors il va chercher ailleurs, il ne sait pas où aller, de manière éperdue, il va aller chercher même de ce côté-là, sans trouver quelque chose peut-être de mieux. C'est juste la lassitude de quelque chose qui pousse l'homme dans une démarche désespérée vers autre chose, mais c'est autre chose. Ne rime à rien, naturellement, c'est pas quelque chose qui, pour lequel on éprouve une soif. Ça s'appelle dans la Torah, tsamé. Non, ravé. Ravé, c'est quelque chose qu'on n'est pas assoiffé. Et d'autre chose que, oui, on est tsamé, on a une soif. Que et l'homme soit attiré par une femme, c'est quelque chose qui naturellement est une sorte de soif. Mais qu'un homme soit attiré par un autre, ça s'appelle ravé, il n'y a pas de soif. Comme ça dit le Ramban. Si ce n'est qu'en abusant d'Averot, il tombe dans ce délire. Alors c'est ce que Bar Kapara a expliqué. La Torah elle-même nous en fait part avec ce mot Toeva. Toe Ataba. Tu t'égares dans ça. C'est se perdre soi-même. Ce n'est pas une vraie voie qu'on recherche. Ensuite, les Kassar Harina, pour un deuxième verre, il espérait boire encore un deuxième verre. Amarle et Maït Tevel. Alors, Bar Kapara, il interroge Rabbeinu Akadosh, c'est quoi Tevel? Ou peut-être c'est Rabbi qui lui demande, c'est quoi Tevel? Et lui, il va faire exactement la même procédure. Amarle Kinyan Akadma'a, comme la première fois qu'on lui a demandé qu'on lui serve le vin. Et que Rabbeinu HaKadosh danse, c'est que dans cette ambiance-là, il lui livre encore un secret de Drouche, qu'est-ce que c'est Tevel? Où est mentionné le mot Tevel? À propos de la paracha des Arayot, une fois de plus, cette fois-ci, c'est Uvokol be'ema lo titen shirov techa le tomaba ve'isha lo tamod ifni be'ema l'iriva. Tevelu. Qu'il y ait accouplement entre un humain et un animal, ça s'appelle Tevel. Tevel. Quel est ce terme-là? Alors, c'est vrai, dit le marchand, on connaît ce terme à propos de la erva de Kalato. Si quelqu'un y va avec sa belle-fille, c'est Tevel. Comme ça, la Torah l'a qualifié. Et pourquoi? Parce que c'est Rashi nous le dit. Rashi à la Torah, il explique que c'est le zera du père et du fils qui s'entremêlent. Ça veut dire, certainement, c'est pas discerner l'enfant si c'est du père ou du fils. Bref. Et là, pour l'animal et l'humain, on peut pas dire Tevel. Il n'y a pas de tarovet du zera. On peut pas confondre l'un et l'autre parce que certainement, elle va pas procréer. Ça n'existe pas. Et donc, c'est quoi la signification de Tevel dans ce contexte? Telle était la question. Amarle Kinyana Kadma'a. Voilà, Bar Kappara a demandé à ce que, voilà, il soit servi et que Rabbi danse. Amarle, c'est ça, Ividli. Pardon, Kinyana Kadma'a. Non, alors, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit Kinyana Kadma'a. Amarle Ividli, Domar Lecha. Il y a ici quelque chose qui n'est pas évident. Il y a le deuxième Amarle qui gêne. Qu'il ait demandé Kinyana Kadma, comme la première chose qu'il a réclamée, qu'on lui serve le vin, et que Rabbi danse devant lui. Ividli, fais-moi, accorde-moi ça, et moi je dis au Marlecha que je te réponde. Mais le deuxième Amarle, il me dérange, je ne sais pas comment le traduire. Et en tout cas, c'est Bar Kappara qui exige, donc, pour pouvoir répondre. Et là, il va lui répondre. Alors, la Gemara dit Avad, il a fait. Rabbeinu HaKadosh, il a exécuté la volonté de Bar Kappara. Dans ce moment de joie, il a accordé parce qu'on dit que Rabbi, il voulait, il avait là, comme je dis, ça lui a mis l'eau à la bouche, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour chaque enseignement, même d'un Talmid. Et voilà que c'est une occasion, on entend un drouge, puis un autre, alors il donnerait tout l'or du monde. Il lui a fait son caprice, on te sert le vin, je danse devant toi, rien que dis-moi. C'est ça, Avad. Amarle, c'est alors que Bar Kappara lui répond, Tevelhu. Que veut dire Tevelou? Tavlin Yeshba? Est-ce qu'il y a une épice particulière? C'est une image, l'histoire de l'épice. Mi Sanya Adabia Min Kulon Biot ou Mi Shanya Adabia Min Kulon? Est-ce qu'elle est différente, cette bia, des autres? Est-ce que cet accouplement, on ne va même pas dire une bia, cet accouplement avec un animal est mieux qu'avec un humain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah elle-même nous dit que celui qui a fauté ici, c'est pas parce qu'il y avait vraiment une tentation, un goût particulier, un appétit particulier pour ça. Ma pitom, c'est pas plus qu'avec son conjoint. Et donc, c'est la Torah qui dit ça avec exclamation, comme pour raisonner l'humanité, qu'on sache, c'est pas quelque chose qui peut tenter normalement. Une fois de plus, comme le dit le Ramban, ce sont des choses que l'homme aborde par désespoir parce qu'il s'est blasé du reste. Je referme ce commentaire. Maintenant, une dernière étape. Amarle Umay Zima. Il dit à Rabbi, c'est quoi Zima? Mentionné dans la Torah, toujours dans ce même contexte, cette fois-ci, à propos de Al Techalel et Bitra Leaznota. Parce qu'après, il y aura Umala Aret Zima. Et une fille qui est même célibataire, faut pas la pervertir parce que ça va remplir la terre de Zima. Que veut dire Zima? Amale Ividli Kinyana Kadma'a. Il lui a dit, fais-moi comme tout ce que je t'avais demandé, à savoir que ta femme me serve le vin et danse devant moi, toi, et je dirai. Avad, il a fait, Rabbi, ve Amarle, et Bar Kappara lui a répondu. Et là, je vois dans cette formulation ici que plus haut, vraisemblablement, il y avait des mots en plus, comme je vous l'ai dit, puisque ici il n'y a pas ces mots en plus. Donc ça me rassure que c'est bien ça, que c'est la bonne lecture qu'on a eue, à savoir que lui, pour sa part, il demandait à Rabbi le service, qu'on lui serve le vin, et qu'il danse devant lui, et que dans cette simcha, il lui donne, il lui livre un chidouch en matière de drouch. C'est ce qui a été fait. Avad, Rabbi a exécuté ça, sa volonté, et alors Bar Kappara lui a donné son interprétation. Qu'est-ce qu'il lui a dit ici ? Zoumahi, Zima, c'est la contraction de Zoum. Celle, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Ça veut dire l'enfant. On ne peut pas l'identifier. Si il y a du znout, même si la femme est célibataire, c'est pas exactement comme Eshetish, mais quand même, et la Torah dit, faut pas pervertir sa fille, parce qu'après il y aura zima, ça veut dire qu'on aura des inconnus, des gens inconnus, non identifiables. C'est pas qui est le père. Et des fois, oui, puisque elle entretient des relations avec toutes sortes d'hommes, donc on sait pas qui est le père. C'est pas qui est le père. Ça va arriver à vraiment Zima. C'est quoi Zima ? C'est le vrai
Zno. Oui, célibataire, il a qu'à dire c'est une Zona.
Non, mais le passage qui parle ici de la fille d'un homme, Léa Znota, de la pervertir. D'accord ? De la livrer à une Biat Znout. Sans que ce soit. Sans que ce soit un mariage. Livrer à une Biat Znout. D'accord ? Et ça, c'est en lave dans la Torah. Hein. Pour lequel la Torah, elle rajoute, il y a une gravité parce que Zima, ça amène Zima sur Terre. Que veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura des enfants non identifiables. Et du coup, il se peut qu'un frère se marie avec sa sœur un jour. Ouais, puisque un homme qui a une relation avec elle, il aura eu un fils ailleurs, et de elle, il a eu une fille. Un jour, ils vont se rencontrer, ils vont se marier, sans savoir, sans se poser aucune question. C'est ça où mal arrête Zima. Des personnes, comme il y en a tellement aujourd'hui dans la société moderne, sur chacun, on peut poser un doute. Zou, Maï, qui est cette personne, hein? Donc, c'est ce que la Torah voulait surtout pas. Elle voulait bannir une tournure pareille dans l'humanité, en tout cas chez les Bnei Israël. Loyachil ben Elassa le Misbal, le gendre de Rabbeinu Akadosh, qu'on a ainsi nommé plus haut, ne pouvait pas supporter cette scène. Il ne pouvait pas supporter comment Bar Kappara. Il fait marcher Rabbeinu HaKadosh, et Rabbeinu HaKadosh, il joue le jeu, et à chaque fois qu'il danse devant moi, il danse, etc. C'était pas tellement le kavod que méritait Rabbeinu HaKadosh. Certains disent, mais Rabbeinu HaKadosh, pour apprendre encore un enseignement, il aurait mis tout l'or du monde, c'est pourquoi il a joué le jeu. Mais Ben Elessa, qui était un grand riche, qui était très merkoubad, était très sensible au déshonneur vis-à-vis de Rabbeinu HaKadosh, il ne pouvait pas supporter « Kam venafak hu veintete mitaman ». Il s'est levé, lui et sa femme, et sa femme, c'est la fille de Rabbeinu HaKadosh, c'est la sœur du Khatan. Et ils ont quitté, sont partis de là-bas, tellement ils ne pouvaient pas supporter. Point. Maï Ben Elassa, c'est qui ce personnage, Ben Elassa, qu'on vient de présenter, pourtant on a dit que c'était le gendre. Alors, quelle est la question si on l'a déjà présenté ? Alors Rashi nous dit, la question c'est Minayin de Avashir, d'où on sait qu'il était riche. Et dans l'histoire qui suit, eh ben, ça va relater qu'effectivement il était riche. Marsha il a une autre explication, mais bon, en tout cas, c'est pas qui est-il, parce que qui est-il, on l'a déjà présenté. Netanya, la Gemara nous dit, voilà, on a trouvé dans la Braïta son sujet, l'olechinam pizer ben elaset maotav. C'est pas pour rien du tout, pour une futilité que ce riche a dépensé de l'argent, à gaspiller entre guillemets de l'argent. La traduction piser ne veut pas dire gaspiller, veut dire casquer, éparpiller. Oui. Et là, les harot baem tisporet shel Kohen Gadol. Mais pour montrer comment était à l'époque du Kohen Gadol la tisporet quand il devait servir au Beth Amikdash. Quelle était la coupe du Kohen Gadol, dirent-ils. Kasom yechasemu et rachehem, pasuk dans Yecheskel à propos des Kohanim. Et donc, c'est quoi cette façon spécifique de couper les cheveux ? Tana, il y en a qui disent que Kassom Yerhasemu, Rashi là-bas au nom du Rabbi Menachem, et ramène la traduction Milachon Kusemet. Kusemet, c'est de l'épeautre. Parce que dans l'épi d'épeautre, chaque grain n'arrive pas au grain supérieur. Alors, c'est ce qu'on va voir ici avec les cheveux du Kohen Gadol, tout de suite. Tana, dans une braïta, c'est rapporté que en loulinit, cette coupe du Kohen Gadol, c'est comme loulinit. Maï loulinit, c'est quoi? Amar Rav Yehuda, tisparta yechidata. Rav Yehuda, le Amora, explique, c'est une coupe qui est singulière et unique. Echidami, oui, mais c'est comment précisément? Amar Rava, rosho shelze, betzadika roshelze. L'extrémité d'un cheveu qui arrive à la racine du suivant. Les cheveux sont rangés assez proches. D'accord? Donc c'était tellement court et très précis pour que l'extrémité de l'un arrive à la racine de l'autre. Vainu tisporet shel Kohen Gadol. C'était ça la tisporet du Kohen Gadol. Et c'est ce que Ben Elessa, il a demandé certainement à des gens qui s'y connaissaient de retrouver ce savoir-faire et de le réaliser. Et il a payé pour ça un prix certainement cher pour faire connaître. Voilà, donc ce n'était pas l'Echinam qui a dépensé son argent, c'était pour faire connaître quelque chose. Voilà, et donc c'est de là qu'on voit dans cette histoire qu'il était riche. Point. Dalat Haremutza, et là on revient à notre sujet de la Mishnah, quelqu'un qui disait « Je m'interdis de manger tout ce qui est tafshilin ». Tafshilin, ça exclut l'œuf qu'on a appelé Betzat Rumita parce que ça ne se mange pas avec du pain, comme on l'a vu, mais ça exclut aussi Dalat Haremutza. Quelle est-elle? Maï Dalat Haremutza, Marshmuel, Kara Karkuza E. Kara, c'est la courge. C'est la traduction de Dalat, mais en araméen. Karkuzae, c'est d'un endroit. Ça veut dire c'est une variété connue à l'époque, spécifique. Celle-là, elle échappe. Elle s'appelle pas Tavshil. Pourquoi? Alors Rashi nous dit parce que ça se cuit pas bien. Ça cuit mal. Même si tu y laisses peut-être longtemps, je ne sais pas, ça cuit mal. Et donc ça ne s'appelle pas un Tavshil. Tavshil, c'est un mécuisiné. Ravashi Amar Dalat Atmuna Baremet. Ça peut être n'importe quel Dalat. Ce n'est pas une variété particulière, ce qu'on appelle un Remutza. Remutza, c'est un qualificatif. C'est quoi Remet? C'est des cendres qui sont encore chaudes. Et Remutza, avec peut-être encore quelques braises à l'intérieur. Et une Dalat Remutza, c'est une Dalat qu'on a plongée dans les cendres chaudes. C'est la manière de la cuire. Mais c'est possible qu'elle n'est pas cuite entièrement. Et donc, elle ne s'appelle pas Tavshil. Donc, l'un comme l'autre, c'est la même idée. Pourquoi ça échappe au Neder de Tavshil? Mais ce n'est pas la même traduction. Alors que pour Shmuel, c'est uniquement une variété particulière qui porte ce nom. Pour Ravashi, non, c'est n'importe quelle sorte de Dalat. Du moment qu'on l'a préparée de cette manière, elle n'est pas inclue dans le vœu. Itivé Ravina le Ravashi. Ravina objecte Ravashi avec une Mishnah. Rabbi Nechemia Omer Dalat Aramit Idalat Amitzrit. La citrouille aramite, c'est celle qui se nomme aussi Dalat Mitzri. Ce ne sont pas deux, c'est une même variété. Eh bien, elles font quoi? Elles ne font pas bon ménage avec la yévanite. C'est kilaïm avec la yévanite. C'est deux sortes différentes et si on les mélange, ça s'appelle du kilaïm. Et également, c'est kilaïm imare mutsa. Ça veut dire, il y a ici mentionné trois variétés. Une qui porte deux noms. Aramite et Mitzri, nous dit la Mishnah, ça ne fait qu'une. Et cette une est incompatible avec la Dalat Yevanite ou Remutza parce que ce sont des variétés différentes. Très bien. Mais au passage, qu'est-ce qu'on entend? Que Dalat Remutza, c'est une variété spécifique. C'est pas la Dalat n'importe quelle variété, mais que tu as plongé dans du Remetz. C'est pas du tout l'intention. Quand Chazal nous parle de ça, les Tanaïm nous parlent de Dalat Remutza, ça désigne une variété particulière. Puisque là, on est sur un sujet de quoi? De variétés différentes. Est-ce que ça et ça, c'est compatible ou non? Donc, clairement, on voit dans cette Mishnah que Dalat Remutza, c'est une variété spécifique, comme l'entend Shmuel. C'est donc une Tiyuvta de Ravashi, et la Gemara confirme Tiyuvta. Maintenant, on continue dans la même direction. Puisque dans les Nedarim, on va d'après la Shon Ben Adam, c'est Otana de nous définir, à son époque en tout cas, qu'est-ce que chaque expression signifiait. Hanoder mi maase kedera, celui qui fait un vœu de ne pas manger maase kedera. En asur il a mi maase ratrata. Il n'est interdit que de ce qui est préparé dans une marmite, mais qu'il faut bouillir beaucoup. C'est ça maase ratrata. Alors Rashi là-bas nous avait dit, je signale que cette phrase de Mishnah, c'est très étonnant, on l'avait déjà dans la Mishnah précédente. Et ainsi que la suivante. Et comme si à deux reprises la même Mishnah, non, c'est pas possible. Et ils ont expliqué, ils ont dans la marge, ils en parlent ici, dans Agadot Vetziyonim. Il y aurait une explication tout simplement que l'éditeur, avec le temps, il a gardé les deux, mais en fait, il y avait ou bien une version où c'était rattaché à la Mishnah précédente, ou une version où c'était un morceau de Mishnah ici, comme un nouveau sujet, mais non présent dans la Mishnah précédente. Comme souvent dans ces prakim, on voit des morceaux de Mishnah que certains rishonim ils ont rattachés à la Mishnah d'avant ou à une Mishnah indépendante, etc. Et là, donc, c'est, disons, une répétition, mais pas vraiment dans le registre de la Mishnah. Il n'y avait pas de répétition. Donc nous, on va le relire. Mais ce qui est bizarre, c'est que Rashi ne l'explique pas de la même manière, plus haut et ici. Plus haut, il disait « ratrata », c'est tout ce qui est bouillon, qu'on fait bouillir comme un bouillon en rotel. Ouais. Et là, on voit que c'est tout à fait autre chose. Dans Rashi lui-même et dans le Ran, ce sont les semoules en tout genre, que du blé concassé sous différents calibres, etc., qu'il y a des noms. Il y a 7 espèces comme ça qui sont mentionnées ici au nom du Yerushalmi dans le Ran. Eh bien, ce genre de plats de semoule qui sont cuites, on appelle ça maase ratrata. Donc, quand il a dit maase gdera, ça inclut maase ratrata parce que ça se cuit abondamment dans la marmite pour obtenir une bonne préparation. Et c'est ça qu'on entend dans maase gdera. Pourquoi ça s'entend dans maase gdera, je ne sais pas, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on l'entendait. Peut-être parce que le mot maase veut dire ce qui se prépare bien. Maase, on va voir que ça veut dire ça se finalise. On allait jusqu'au bout de la préparation bien faite. Alors, maase gdera, c'était en particulier ce genre de semoule. Amar konam ayorel ikdera. Par contre, il a dit konem, ce qui yora, konam, ce qui rentre, ce qui descend à la marmite, ce qu'on met dans une marmite. Shalitoem, que je ne goûte pas. Alors il a surbechol anasabakdera, il est interdit dans tout ce qui se prépare dans une marmite, même si ce n'est pas d'Afka, c'est maaseratrata. Même que ce ne sont pas des choses qui se font bien jusqu'au bout dans une kedera. Si j'ai bien compris, comme on va le voir, même quelque chose qui va se terminer, sa préparation est terminée dans un poêlon, quand même, on dit qu'il s'appelle Yored Bikdera. Parce que Yored Bikdera, ça ne veut pas dire ce qui est achevé dans un Kdera. Même s'il y a une première étape dans la Kdera pour finir après dans une poêle, poêlon, il fasse, on appellera, eh bien, ça s'appelle aussi Yored Bikdera. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Tout ce qui passe par la Kdera, même si sa préparation n'est pas achevée dans une Kdera, c'est inclus. Tandis que quand tu dis Maase Kdera, c'est uniquement quelque chose dont la préparation est achevée dans la Kdera. C'est bien le cas des Maase Ratrata, ces fameuses semoules, on ne les passe pas dans une poêle pour terminer. Maratania. Anoder mina yored ikdera asur ba yored la ilfas. Celui qui fait le neder, tout ce qui est yored ikdera, eh bien il est interdit même dans ce qui va descendre dans le ilfas. Alors Rishonim m'explique qu'il y avait des préparations qui commençaient dans une kedera, mais qui terminaient dans le ilfas. Ça veut dire d'abord on le fait cuire dans de l'eau, ça c'est akdera, et après on le faisait frire dans une poêle, ils fassent, et ils disent là-bas peut-être pour pas que ça devienne croustillant, alors on le faisait cuire, bouillir dans de l'eau chaude d'abord, avant de le frire. Donc, la Braïta nous dit, ce qui se termine dans un ilfas, mais qui commence sa préparation dans un inkedera, ben ça c'est inclus dans Yored l'akdera. Donc qui a fait un éder Yored l'akdera, ça inclut même quelque chose qui n'est pas achevé dans l'akdera, qui sera achevé dans le Ilfas. C'est ce que la Braïta dit chez Kvar Yara l'Akdera, parce qu'il est déjà passé par l'Akdera. Kodem chez Yored la Ilfas avant d'en venir à Ilfas. Mais celui qui fait le vœu, Mina Yored la Ilfas, Moutar be Yored l'Ikdera. Là, il est permis dans ce qui va dans l'Akdera. Parce que Yored la Ilfas. Ça s'entend, hein, qui est déjà passé dans le Ilfas, mais quelque chose qui n'était passé que dans l'Akdera et n'est pas encore passé dans le Ilfas n'est pas inclus. C'est pourquoi ça reste Mouta. Maintenant, la même Raïta continue avec Naasa. Naasa veut dire, c'est pas juste ça descend pour être préparé partiellement. Ça fait un tour dans l'Akdera. Non, Naasa veut dire c'est achevé. Sa préparation est achevée à l'aide d'une Kdera par Bichoul ou à l'aide d'un Ilfas par le fait de l'offrir. Alors, mina naasa bikdera, mutar ben naasa ba ilfas. S'il a dit, je fais un éder de tout ce qui est naasa bikdera, Eh bien, ce qui se fait dans un ilfas, ou même s'il passe d'abord dans l'akdera pour terminer sa préparation dans un ilfas, est exclu du vœu. Parce que c'est quoi qu'on entend en Nasa Bikdera ? Quelque chose qu'on achève sa préparation dans l'akdera. Celui-là, non, faut l'offrir encore. Il n'est pas encore achevé à l'aide de l'akdera. Il échappe. Il n'est pas inclus. Mais Minana Saba ilfas, s'il a dit je fais un vœu de ce qui est Nasa Bikdera, c'est Moutar ben Nasa Bikdera. Ce qui se prépare dans son Gdera est permis. Mais d'après le Ran, plus que simplement Nasa Bikdera uniquement. Non, c'est pour dire même quelque chose qui, après le Ilfas, va retourner dans l'Akdera. Du moment qu'il était déjà fini et prêt à consommer après la poêle, si tu as rajouté encore un détour vers l'Akdera, c'est pas pour ça que... Alors, c'est pas pour ça qu'il devient sourd. Il reste moutard. D'accord ? Il reste moutard parce que on a rajouté une opération avec l'Akdera. Ensuite, un Oder Mina Yored la Tanour et Nasour la Bepat. Maintenant, il y aurait de la tanour. Ben, en général, c'est surtout le pain. On peut aussi cuire dans un four de la viande, des rôtis, etc. Mais c'est surtout le pain. Donc, quand tu dis bistam, il y aurait de la tanour, tu as fait référence au pain. C'est ça qui est assour et c'est tout. Mais mamar kolma, c'est tanour. Et s'il a dit tout ce qui se prépare dans un four, alors, alaï, je prends sur moi ben eder, assour bekol anasim et tanour. Tout est interdit. Mina kavush. Mishnah, Mina Kavush, Stam Kavush, En Asur et la Mina Kavush El Yerek. Kvushim, c'est des, comme des variantes qu'on met, on laisse mariner dans de l'eau et du sel. On en faisait le plus couramment avec des légumes. Ça pouvait se faire avec d'autres choses aussi. Mais comme il a dit Kavush Stam, alors dans le langage parlé à l'époque, Stam Kavush, c'est les légumes en variante. Kavush Anitoem, Asur Bechol Akvushim. Mais s'il a dit. Je fais le neder de kavouche, sans dire le he, de he ayedia. Il n'a pas dit le kavouche par excellence. Kavouche, que je ne prendrai pas, que je ne goûterai pas. Alors l'accent, c'est surtout qu'il n'a pas mis le he. Comme ça, le ran explique. Alors, là, il est assourd dans toutes sortes de kvouchim, même si on a fait, je ne sais pas, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre que des légumes, peut-être la viande, je ne sais pas, je ne connais pas. Eh bien, tout ce qui pouvait se faire en kavouche était interdit. Parce que c'est que quand il y a le He Ayedia, que ça s'entend, le kavouche classique, courant, par excellence, c'est ça le He Ayedia. Alors là-bas, c'est le classique, c'est-à-dire Yerek. Mais quand tu n'as pas mis le He, ça comprend toutes sortes. La même chose, il va nous dire le Ran, qu'on va faire cette nuance dans différents termes. Chalouk, Tzali et Maliar. Il y aura la différence avec le He et sans le He. Mina Chalouk, Chalouk c'est bouilli. Et nous assurer la mina chalouk chez le bassar. Parce que c'est surtout la viande qu'on fait bouillir abondamment pour qu'elle cuise, alors que les légumes, moins. Donc, stam chalouk, c'est le chalouk de bassar. Mais s'il a dit chalouk chanitoem, il assure bekol hachloukim, sans différence, même des légumes bouillis. Je vais lire encore un petit morceau de Mishnah dans la Mishnah suivante. Avant de faire la Gemara, vous verrez pourquoi. Minatzali, c'est le même plan. Du rôti, en asur et la mina tzali shel basar. Parce que stam du tzali, c'est de la viande le plus couramment. Divrei Rabbi Yehuda. C'est li shani toem asur. S'il a dit je fais le vœu de tzali tout court sans le he, asur bekolat sluyim. Cette fois-ci, il inclut tout ce qui est rôti, lavdavka de la viande. Parce qu'il n'y a pas le he à yedia. Comme en français, si je dis un rôti, est-ce que c'est une aubergine rôtie, je ne sais pas moi, non. Un rôti, c'est un rôti de viande. Mais si je dis ce qui est rôti, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, Minamaliar, il a fait un vœu de ce qui est salé. Salé, pas assaisonné. Salé, c'est, ça a été traité avec le sel par salaison pour le ramollir, pour le rendre mangeable. Alors, un assuré, la Minamaliar, c'est le dag. Parce que le plus couramment, c'était les poissons qu'on salait à l'époque. Donc, stam. Le maliar, c'est celui du dag. Mais s'il a dit maliar chanitoem, sans le he, alors ça assure bekol amelouchim. Et là, Laura nous dit, voilà, c'est à chaque fois la même nuance qui se joue selon qu'on a mis le he à yedia. Alors c'est le maliar par excellence, c'est celui qui est couramment maliar. C'est le dag, les autres, le moins courant. Mais si tu as dit maliar tout court, ça inclut tout. Et le Shanitoem qui est exprimé à chaque fois dans la deuxième formule, c'est sans signification particulière, dit l'Oran. On l'a mis dans la Mishnah juste pour que tu comprennes que c'est le He qui est déterminant. Ok, c'est une première explication dans l'Oran, il y en a une autre. Mais voilà, on a lu d'une première façon ce passage, selon la première explication du Ran. Au milieu, on a un petit morceau de Gemara que j'ai sauté parce qu'en réalité, ce passage de Gemara se rapporte aux quatre points qu'on a trouvés dans les deux Mishnayot jusque-là. Amar le Rav Acha ben Rav, il vient le Rav Ashi, il lui demande Amar de Kavish Mai, ou de Shalik Mai, de Tzli Mai, de Maliach Mai. C'est quoi la question pour ces quatre sujets? On voit bien que la question se rapporte à la Mishnah précédente et aux deux sujets de la Mishnah d'après. C'est pourquoi il faut supposer, et d'ailleurs dans la marge, ils l'ont notifié, il faut supposer que tout était collé en une, et ce morceau de Gemara, il venait après. Et donc, c'est pourquoi la Mora questionne sur ces quatre points de la Mishnah, qui sont tous du même genre. À chaque fois, on me dit, ça dépend s'il a mis le He ou non. Et s'il n'y avait pas le He, mais il n'y avait pas rien non plus, il a mis le Dalet. Ce qui est Kavush, ce qui est Tali, ce qui est Malouar, est-ce que c'est comme, c'est l'équivalent du He à Yedia? C'est le Kavush par excellence, c'est le Tzli, ou non? D'accord? Parce que le He Ayediya, ça spécifie, mais en même temps, c'est une résonance de ce qui est reconnu comme tel, ce qui est le Kavush par excellence. D'accord? Ça donne aussi la connotation de Chashivut, ce qui est vraiment Chashuv en tant que Kavush, Tzali, etc. Donc le He Ayediya, c'est un peu plus que le Dalet. Mais le Dalet aussi spécifie ce qui est Tzaloui, ce qui est Kavush. Couramment. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Ou ça veut dire n'importe quel salaud. C'est là la subtilité et d'où la shéla de Rav Acha. Et sur ça, on reste avec une shéla, puisque c'est marqué Maï Echin Mashma. Comment ça s'entend, ce dalet? Tivae veut dire tiku. On reste avec une shéla, on n'a pas tranché. Maintenant, on passe à la suite de la même Mishnah. On a de l'avance. On reprend la Mishnah suivante au milieu. Dag, Dagim, Shani Toem, Asur. Alors, le Ran nous dit que Dag, singulier, c'est un grand poisson. Pourquoi? Parce que ça s'entend le poisson qui se vend à l'unité. Mais quand on dit Dagim, ça s'entend des petits, parce que ça se vend en vrac. D'accord? Donc, ou au poids. Bonne journée. Donc, c'est ce qui fait qu'on a cette nuance. Si bien que la Mishnah dira que quand il a dit les deux, Dag, Dagim, Shani Toem, Ema il est Asur, Bahen, Ben Gdolim, Ben Ktanim. Pourra pas manger ni des grands ni des petits. Puisque les petits, parce qu'il a dit Dagim, et les grands, parce qu'il a dit Dag. Mais dans le Ran, on comprend que s'il avait dit juste Dag, il n'y a que les grands poissons interdits. S'il avait dit Dagim, il n'y a que les petits interdits. Et on poursuit Ben Meluchim, Ben Tfelim, peu importe sous quelle présentation, qu'il soit salé ou qu'il ne soit pas traité avec le sel, mais Tafel, c'est ce qu'on appelle sans le sel. Ben Chaim, Ben Mevushalim, qu'il soit cru ou qu'il soit cuisiné, tout ça, c'est inclus dans le vœu. Ou moutard, cependant, il est autorisé de manger tarit teroufa. Tarit teroufa, c'est le grand poisson, mais qu'on a comme mixé. On a réduit en mixture. Il faisait ça à l'époque. Ben ça reste permis parce que c'est ni dag, ni dagim. C'est ni dag et dagim, l'un comme l'autre, ce sont des poissons entiers. Ça, c'est pas des poissons entiers. Vadaï, que si un poisson, il est pas cachère. C'est pas parce que tu l'as mixé qu'il va devenir cachère, c'est absurde. Mais là, on est dans le sujet de Nedarim, Lachon Bene Adam. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis Dag? Dag, c'est une entité. C'est un poisson en bonne et due forme, c'est pas une mixture de poissons. Idem pour Dagim. Là, c'est le grand, là, c'est les petits, mais entiers. Mais une mixture de poissons, ça reste permis. C'est ça, Tarit Teroufa. Également, il est autorisé de consommer Tsir et Mourias. C'est la saumure du poisson. Exactement, je ne sais pas, c'est la graisse du poisson qui sort. Dans le Ran, on dit que le mourias, il comporte aussi kirvé dagim. Non, le tir, kirvé dagim. Je ne sais pas exactement comment c'est, mais en tout cas, c'est plus que juste le mourias qui est uniquement le gras du poisson qui sort tout seul. Anoder minatsachana. Donc là aussi, c'est permis, j'ai dit. Pourquoi? Ben parce que c'est pas le poisson lui-même. Dag, c'est un poisson entier. Dagim, des poissons entiers. Là, c'est que le jus, le gras, c'est permis. Hanoder minatsachana, il est assur betarit terufa ou moutar betir ou mourias. Tsachana, c'était des petits poissons, un mélange de petits poissons, et parmi, il y avait aussi des poissons broyés. Et on mettait, je crois, beaucoup de sel, et ça faisait sortir le jus, ça faisait une sorte de mélange, et ça donnait une odeur, parce que le tir qui est sorti, etc., ça faisait une odeur. C'est pour ça qu'on l'appelle tzachana, comme quelque chose qui est très odorifiant, s'appelle comme ça. Et maintenant, celui qui a fait le neder de tzachana, ça rend assour également tarit terufa. Pourquoi ? Parce que dans tzachana, il y a aussi des poissons qui sont broyés. Il n'y a pas que des petits poissons entiers. Il y a de ceci, il y a de cela. Et donc, tarit terufa, c'est de la mixture de poissons, ben, ce sera assour. Ou moutar, betir, ou mourias, mais... C'est moutarde de manger tir et mourias. Parce que tzachana, c'est surtout le poisson qui est dedans. C'est ça qu'on désigne et qu'on entend. Anoder mitarit terufa. Celui qui a fait le neder de tarit terufa, cette mixture de poissons de l'époque, il est assour, betir ou mourias, d'après une version. Mais le ran, il est gores, moutarde betir ou mourias. Parce que tarit terufa, c'est la mixture de poissons, d'accord ? Mais ça n'inclut pas. Hein. Tir et Mourias. Gemara, Tania. Rabbi Shimon ben Elazar omer dag shani toem asur bigdolim umutar bigtanim. Daga shani toem asur bigtanim umutar bigdolim. Il dit le Tana dans la Braïta que le dag, c'est grand. Mais si tu as dit daga, c'est plutôt féminin, faut savoir, mais en tout cas, ça veut dire ktanim. Ou peut-être que Daga, il faut le comprendre comme il dit Rashi à la Torah à propos de Makadam, que Daga veut dire la multitude de poissons. C'est aussi comme pluriel. C'est singulier, mais pour dire pluriel. C'est comme ça que ça s'entend. Je ne suis pas sûr que c'est propre à Daga plus que Dag. Ça se pourrait que Dag aussi, des fois, désigne le Dag pluriel. Tout simplement que l'un c'est masculin, l'autre c'est féminin. Je ne sais pas. Dans Rashi. Sur Yona, on voit bien que l'un c'est masculin, l'autre c'est féminin. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, si ça passe par le pluriel, alors ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quand quelqu'un il parle de poisson pluriel, c'est l'ectanim. Parce que l'ectanim, c'est ce qui se vend en vrac. Tu les vends en pluriel, tu ne les vends pas à l'unité. Tandis que Dag, singulier, ah, c'est le grand. Peut-être c'est l'intention, mais en tout cas, on voit ici que, voilà, il y a cette subtilité entre Dag et Daga. Maintenant, là-bas, ça voulait dire l'ensemble des poissons. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'à la base, ce n'est pas Daga ? Pourquoi ? Parce que des fois, comme on dit col sous paro, ou encore il y avait. Là-bas, il y avait écrit col. Il y a d'autres endroits où on voit ça, que le singulier vaut le pluriel selon le contexte. On comprend que c'est l'ensemble de. Donc, est-ce que c'est propre à Daga féminin plus que Dag ? Je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, le Tana nous dit que c'est ça les deux résonances. Et il rajoute que s'il a dit Dag Daga, Shani Toem, alors il est Assur Ben Bigdolim Ben Bigtanim. Le Chidouche, dit le Ran, c'est qu'on ne va pas dire qu'il s'est repris et qu'il a voulu corriger le tir. Non, tu as dit Dag et tu as dit Daga. Donc tu t'es interdit le grand et tu t'es interdit les petits, tout est interdit. Amar et Rav Papa les Abayé. Ici, c'est arrêté la braïta. Rav Papa demande à Baye, Mimai de Dag, Shani Toem, Gadolou. Tout, tu sais que Dag, ça signifie grand. Dirtiv, c'est bien parce qu'il écrit, Vaiman Hashem Dag, Gadol, Ivlo et Yona. Hashem a occasionné là-bas un grand poisson pour engloutir Yona. Veaktiv, mais il est pourtant dit là-bas aussi, Vait Palel Yona et Hashem Elokav, Mime et Adaga. Et c'est le même poisson qui est nommé une fois Dag, une fois Daga. Donc, comment tu dis Dag, c'est le grand et Daga, le petit? C'est le même. Et donc le même supporte les deux noms. Réponse à la kasha, c'est pas un problème. Dilma palte d'agadol ou palte d'akatan. Peut-être que c'est un grand qui l'a rejeté et c'est un plus petit qui l'a englouti. Et c'est du plus petit qu'il a choisi de prier parce qu'il était en difficulté, il y avait moins de place peut-être, il souffrait davantage. Et il faut voir un peu là-bas dans Rashi sur Yona, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Mais en tout cas, voilà que on peut surmonter, même si, dit le Ran, aussi petit qu'il pouvait être, c'est sûr qu'il était encore grand, ce poisson. Parce que s'il pouvait engloutir un humain, c'est que ça reste un grand poisson. Mais on a volontairement dit daga pour désigner un poisson petit de manière relative au précédent. Donc ça désigne un petit, en général. Ça rejoint, il n'y a pas de problème. Dit la Gemara, Ela ve'adaga jorbayor meta, ktani metu, gdolim lo metu. Continue Rav Papa dans la même lancée. Il objecte. Et alors quand dans Makat Dam on dit ce passe quoi ? C'est que les uns qui sont morts et pas les autres. Mais c'est sûr que dans du sang, tous les poissons y meurent. Et c'est pourtant mentionné, désigné daga. Donc daga, ça comprend tout. Mashmak doli, mashmak tanim, tu vois pas ? Réponse. Alors elle lui répond, tu as raison. Et la daga, mashmak doli, mashmak tanim. Tu as raison que au niveau du texte, daga, c'est sans distinction. Ces poissons pluriels, grands, petits, tout ce que tu veux. Mais ici, dans le langage des Nédarim, Bindarim alechacha lachon bene Adam. On doit suivre le langage des bene Adam. Et comme le lachon bene Adam, c'est que quand ils disent daga, ils entendent les petits. Et ben voilà, on s'en tient au lachon bene Adam. Et non pas à lachon de la Torah. Ensuite, à Noder minatzachana. Alors on a dit que tzachana, c'est une sorte de préparation avec des petits poissons entiers et d'autres qui sont broyés avec. Alors la question maintenant, Amar les Ravina les Ravashi. Amar are alai tzichin. C'est la même chose que tzachana, mais pluriel. Tzachana, c'est singulier. Tzichin, c'est pluriel. Mai, qu'en est-il ? Est-ce que là, ça inclut aussi le tzir et le mourias ? Alors que pour tzachana, on a dit que tzir et mourias, c'est exclu, c'est permis. Est-ce que là, c'est, puisqu'il a dit pluriel, ça inclut même les parties accessoires de cette préparation qui comprenait aussi du tzir et mourias ? Tibae, on reste avec un safek. Voilà, Razak, Baruch.